Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Subnautica, de Shadow of the Colossus, de Red String Club, et on finira par les DLC de Wolfenstein 2. C'est Wolfenstein 2 ?
C'est
Wolfenstein 2. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin, Décroissant. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Et Patrick Elio. Bonjour,
bonjour
Patrick.
Erwan.
Oh bah oui, mais c'est bien en fait, on a tenu notre promesse, on est là, c'est déjà pas mal.
C'est vrai,
hein, c'est bien.
On n'est pas parti, on est resté.
Voilà,
a...
en fait on est là, on va pas bouger. Juste pour prévenir que bah oui, hein, c'était difficile, donc en fait on reprend une semaine de vacances la semaine prochaine.
Oui, faut pas non
voilà,
plus,
ouh, deux semaines d'affilée. Pff, on est fatigué d'un coup, pas encore parce qu'on n'a pas fait la deuxième, mais voilà, alors, je préviens d'ores et déjà. Bref, on commence avec toi, Corentin, avec du rachat et pas du petit rachat.
Ben non, hein, alors ça parlera peut-être pas à tous les joueurs ou tous les consommateurs de jeux vidéo, mais il se trouve qu'il y avait un géant en Europe qui s'appelait Core Media et qui était allemand, et c'était un grand distributeur de jeux vidéo et éditeur aussi, il avait pas mal de développeurs sous sa coupe, et il a été racheté par THQ Nordic, donc pour 121 millions d'euros. Alors THQ Nordic,
voilà. THQ n'existe plus.
Alors THQ, c'est voilà, c'est un zombie, on va dire ça comme ça. Non, alors THQ, donc on connaît la marque THQ parce que c'était voilà le grand éditeur américain. Donc
beaucoup de licences, hein, pas toujours très.
C'est ça, pas toujours ça aussi, voilà. Mais quand même quelques jeux sympas. Genre on pense au Darksiders, qui notamment on va en reparler.
C'est trop aussi.
Voilà. Et donc notre ami THQ en 2013 est mort, et il y a eu une grande, on va dire, foire pour racheter les licences et le nom. Le nom a été récupéré.
Il y a eu un eBay, en fait. Voilà, hein, c'est ça.
Non, mais vraiment, enfin, là, on s'est partagé un petit peu les restes de THQ.
J'ai repris les Soft Parks.
Si les Soft Parks, exactement, tout ça. C'est, et donc, notamment, le nom a été racheté par Nordic Games, qui est donc devenu THQ Nordic. Qui a donc racheté Core Media, qui lui, par contre, était bien implanté, qui est allemand et qui est bien implanté
Nordic
en Europe.
Nordic Games, c'est autrichien.
Autrichien. Et donc, Core Media, c'est Deep Silver, un label qui est bien connu et qui possède quand même des jeux assez connus. Donc, on pense au Dead Island, dont le 2 se fait attendre, c'est l'Arlésienne. Hein. Il y a aussi les Reason, les Homefront, et puis il y a aussi Agent of Mayhem, là, qui était récent.
Ouais,
et puis des grosses licences aussi, un Metro, par exemple, dont on attend le Exodus, je crois. Voilà, et puis Saints Row, hein, qui est quand même un des gros succès de Deep Silver. Voilà. Et concrètement aussi, Core Media, Core Media, il distribuait beaucoup de jeux japonais en France, des jeux Tecmo Koei, des jeux Nipponichi Software, des jeux Sega, des jeux Atlus, genre Persona 5, c'est Deep Silver par exemple, qui l'ont distribué en France. Donc c'est pas une petite affaire qui s'est passée là, d'autant que Core Media, c'est plus gros que THQ Nordic.
On a genre de quoi à l'inverse.
Ouais, genre ils ont deux fois plus de développeurs, ils ont un réseau.
Ils sont là depuis 20 ans, un groupe qui est là depuis le.
Donc c'est vraiment le petit poisson qui mange le gros poisson, donc c'est très bizarre, mais bon, ce qui s'est passé. Et donc voilà, on pense quand même que les résultats très très mitigés de Core Media récents, notamment avec Agents of M.A.M.E. qui a vraiment pas bien marché.
Homefront aussi qui a pas été.
Homefront Revolution, exactement. Ou alors l'Arlésienne, comment ça s'appelle,
Dead Island 2.
Lui, ça fait des années qu'on l'attend.
Changement de développeur, c'est compliqué Dead Island 2.
Exactement, c'est une histoire qui date d'Hérode. Mais voilà, donc peut-être que ça a un petit peu mis en position de faiblesse Core Media, donc qui a peut-être accepté des conditions un peu moins intéressantes qu'elle ne l'aurait pu le faire dans d'autres circonstances. Mais bon, voilà, ça reste un petit séisme, même un gros séisme en Europe d'un point de vue de l'édition et du développement de jeux vidéo. Et voilà, je pense qu'à partir de maintenant, on va commencer à parler beaucoup plus souvent de THQ Nordic qui est passé maître dans l'art de racheter tout et n'importe quoi, y compris les choses beaucoup plus grosses qu'elle. Voilà.
Parce qu'ils avaient Darksiders, je crois qu'ils avaient racheté.
Ils ont les Darksiders.
Ils ont prévu trois acquisitions. Ouais. Ce qu'il faut espérer, c'est que Core Media va continuer à avoir cette politique d'édition de jeux japonais dont tu parlais, des jeux de niche parfois, et ça c'est important de les amener sur le marché. Ils font un vrai travail comme ça depuis des années là-dessus, et c'est important. Donc il faut espérer que ça va perdurer.
Persona 5 ne serait peut-être toujours pas sorti si Deep Silver, à un moment donné, n'avait pas dit allez, on le prend. Quoi.
C'est vrai.
Ah oui, carrément.
Je sais pas. Non, en vrai, c'est quand même un certain.
C'est un gros morceau.
C'est un gros morceau
dans cet environnement.
On a peut-être entendu un peu plus tard, mais.
Ils font un vrai travail de fond depuis des années sur ces jeux. Donc il faut que ça continue.
Et Patrick, toi c'est Evil Within 2.
Oui, et news plus légère, on a appris cette semaine, c'est quelque chose qui se passe régulièrement dans le jeu vidéo, ça arrive parfois, c'est l'intégration d'un mode en vue subjective dans un jeu déjà existant en troisième personne. La différence c'est qu'en général c'est plutôt bidouillé par des tiers qui s'amusent à transformer le jeu. Là c'est The Evil Within 2 donc de Bethesda qui reçoit une mise à jour gratuite sur PC et console, qui permettent de refaire le jeu entièrement en vue subjective. Alors moi, c'est un titre que j'avais beaucoup aimé, Evil Within 2, je trouve que c'était une bonne surprise. J'en parle, j'ai pas encore essayé la mise à jour, parce qu'elle vient juste de sortir, en fait, l'annonce est tombée hier.
C'est le photographe, là
c'était un des ennemis qu'on rencontrait au début du jeu. Et je trouve que c'est une bonne idée de proposer ça en plus gratuitement. Et je pense que le jeu s'y prête plutôt bien.
Vue subjective VR ?
Non, justement, c'est une de mes questions. Pourquoi pas une version VR à l'avenir ? Ça pourrait être intéressant.
Je pensais que c'était VR, moi.
Je crois pas. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Je trouve de faire évoluer un jeu comme ça, de proposer des vraies nouvelles façons de le retravailler, peut-être de se replonger. C'est l'occasion de se replonger dans un titre qu'on a déjà fini. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de cette semaine. Et puis quelques nouvelles aussi du côté des nanars cinéma qui arrivent tirées de notre média jeu vidéo qu'on adore tant. Une news que plus personne n'attendait, mais dont on se fout un petit peu, mais qu'il faut quand même souligner, c'est l'arrivée, en tout cas toujours prévue, du film Sleeping Dogs. Vous vous rappelez de Sleeping Dogs,
tout le monde s'en fout, en fait.
Etc.
Il manque un peu le coche média des news un petit peu. Tout ce qu'on n'apporte pas, tu l'apportes.
Parce qu'en fait, donc, c'est l'acteur Donnie Yen qu'on avait vu récemment dans Rogue One qui a posté sur son Twitter une photo de tournage où en fait il va incarner ce personnage de Sleeping Dogs. Donc tout le monde s'en fout, mais il fallait en parler. Plus inquiétant encore, c'est la bande-annonce qui est tombée cette semaine du film Rampage. Qui va être adapté du fameux jeu d'arcade des années 80. C'est terrifiant. La bande-annonce est sortie. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu. C'est assez flippant. Alors, non pas que le jeu d'arcade était un chef-d'œuvre, mais c'est un jeu défoulant qui avait, un parti pris d'arcade complètement assumé.
Moi, j'ai adoré jouer en arcade, je ne comprenais pas du tout le but, mais j'aimais bien détruire les immeubles.
C'était un pur jeu de. Voilà, de
et manger
de,
les gens.
Voilà, pour se défouler, qui n'avait pas forcément de velléité scénaristique. Là, le film, visiblement, a des velléités scénaristiques, voire humoristiques. Ça fait un petit peu peur à voir. Donc, en tout cas, la bande-annonce est tombée cette semaine. Le film sort en mai et c'est plutôt préoccupant. Et puis, on a aussi Tomb Raider qui arrive bientôt. Donc, une nouvelle adaptation, une sorte de reboot cinématographique.
Ah oui,
qui
j'ai
coïncide.
Vu ça des images, mais c'est l'adaptation du reboot de Tomb Raider, en fait.
Vaguement, c'est
plan pour plan. La bande-annonce, c'est plan pour plan du trailer du jeu vidéo, quoi. Le passage dans le bateau, il pleut dehors, le bateau, c'est exactement les mêmes plans.
La question va être de se demander jusqu'où ils vont pouvoir aller, parce qu'il faut se rappeler que ce reboot était quand même gore, violent, assez hargneux et méchant. Le reboot, c'était
là.
Et du coup, je pense que ça risque d'être assez difficile à reproduire. Et bon, en tout cas, voilà.
En même temps, les Tomb Raider ne sont pas parmi les plus mauvaises adaptations de jeux vidéo. Enfin, c'est ceux qui existaient là. Mais non, mais
c'est très gentil avec les premiers Tomb Raider avec Angelina Jolie quand même. Hein.
Non, mais par rapport à la. Sincèrement, par rapport à la qualité moyenne d'une adaptation de jeux vidéo au cinéma, Tomb Raider s'en sortait plutôt avec des honneurs. C'était pas des très grands films, mais c'est.
C'était dur quand même. Hein. Mais bon, en tout cas, on va voir ce reboot.
Vous êtes cruel.
Qui va surfer donc sur la nouvelle vague de jeux depuis 2013.
D'accord. Bon, bah, aucune transition possible, en fait.
Vous
avez flagué toute transition possible. Du coup, on va aller sur une planète marine, on va s'écraser sur une planète marine notamment, et on va essayer de survivre avec Subnautica. Father was right. We shouldn't have gone so deep. Down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. Marguerite and Father are already part of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. C'est donc un jeu qu'on connaît depuis déjà longtemps parce que l'Early Access date du décembre 2014, donc ça fait déjà plus de 3 ans qu'on voit passer. En tout cas, ceux qui ont joué le connaissent bien. Les autres voient passer ça sur Steam de temps en temps parce que voilà, c'est un jeu qui a fait parler de lui quand même dès le départ. Et donc l'histoire, c'est qu'on est dans ce vaisseau spatial qui s'appelle Aurora, qui s'écrase... comme une mer, enfin bref, dans un océan, dans la mer, voilà, c'est ça que je cherchais. Et puis on a juste le temps de passer par une sorte de capsule de secours qui bouge un petit peu, on s'évanouit et on se réveille au milieu de rien, au milieu de la mer. Corentin, comment ça s'est passé ce réveil? Un peu dur, un peu violent quand même.
C'est un peu dur. En fait, j'ai un peu le même sentiment, le personnage se réveille et fait oh là là, mais il y a de la mer partout. C'est un peu pareil pour moi, j'ai fait. C'est quoi ce jeu, Subnautica? J'ai jamais entendu parler. Je suis passé complètement à côté de Subnautica pendant toute sa période en Early Access et tout ça. Donc, oui, c'est vrai que c'est un peu même réveil, un petit peu. Oh là là, alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc, bon, on se réveille, on est dans sa capsule, il y a un feu. Hein, donc, on est là, on prend son extincteur et on éteint le feu. Puis après, on sort et puis. Waouh, c'est Thalassa, il y a de l'eau partout, il y a donc l'Aurora, hein, son gros vaisseau mère duquel on est parti alors qu'on était en orbite avec sa capsule de sauvetage qui est en flamme dans l'océan, donc on est un peu en mode... Galère, c'est la galère,
il va falloir s'en sortir.
Voilà. Surtout que très rapidement, le joueur avisé va se rendre compte qu'il a une barre de faim et de soif en bas à gauche.
Voilà. Nous avons donc une barre de santé, une barre de soif, une barre de faim, et nous avons deux rations à manger et deux bouteilles d'eau.
Voilà, c'est ça, t'as deux balistos, deux bouteilles d'évian, grosso modo, et des brouilles.
Et tu n'as quasiment rien d'autre, sauf ta combinaison qui te permet d'aller 30 secondes sous l'eau.
Voilà,
enfin, 45, mais c'est pas long.
Tu peux rester un peu sous l'eau, tout ça. Donc tu commences à aller sous l'eau, tu te dis bon, on va peut-être manger les poissons du coin, et c'est exactement ce que tu vas faire. Donc tu commences à faire mumuse, à faire la course avec les poissons, ce qui est pas forcément facile, à les attraper à main nue. Bravo d'ailleurs, parce que attraper un poisson à main nue, à mon avis, ça peut pas être aussi facile que ça. J'espère qu'il a les petites ventouses dans ses gants. Donc c'est à la première personne, on commence à prendre ses petites marques, voilà, on nage, on récupère son oxygène, on fait attention de ne pas mourir noyé. On retourne dans sa capsule, parce que dans sa capsule, bah il y a un outil qui est très pratique, qui s'appelle le fabricateur, je crois. Ça. Bon, c'est un machin à tout faire.
L'imprimante 3D++.
Voilà. Voilà, c'est l'imprimante 3D qui vous dit bon, t'as ça et ça, bah, je peux te faire ça. Voilà. Donc, très rapidement, on va commencer à trouver des poissons qui vont permettre, on va pouvoir les griller grâce à son transformateur, ce qui va nous donner des rations, on peut les manger, ça nous permet de récupérer de la nourriture, de la satiété. Et puis, on a également des poissons qui naturellement filtrent l'eau, alors on va les récupérer et puis on va en faire des bouteilles d'eau au sein de ce transformateur-là. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, on va commencer à observer son PDA, sa tablette, dans laquelle, en fait, il y a toute une liste de choses qu'on peut faire, toute une liste de choses qu'on peut récupérer pour fabriquer des objets de plus en plus complexes, donc des outils, ça va être des lampes torches, qu'est-ce qu'on va obtenir, un couteau aussi, ça va être important pour se défendre un minimum contre les poissons un peu plus, on va dire, grégaires, parce qu'il y en a. Voilà, donc le but du jeu, voilà, on est vraiment dans un jeu de craft et de survie dans lequel, avec un fond de scénario, donc à base de log audio.
Un fond marin aussi, mais c'est...
aussi, c'est ça. Mais voilà, donc on va réceptionner de temps à autre des messages sur sa radio, dans sa capsule, qui vont dire « Oh là là, oh, vous êtes crashé là, oh, c'est chiant, ouais, on va venir vous chercher, mais pas tout de suite, c'est chiant et tout. »
Parce bon, qu'au okay. début, c'est 9 jours. Alors 9 jours, tu te dis « Bon, c'est bon, je prends ouais. de la nourriture et ouais. de l'eau, ça devrait le faire. »
Ça devrait le faire.
Après, ça se rallonge un petit peu. Et voilà.
Ça se rallonge, ouais, on va voir. Mais du coup, on commence. Il y a des événements qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire. C'est pas un gros spoil de dire qu'à un moment donné, très peu de temps après qu'on ait atterri, le vaisseau explose en fait et provoque une zone radioactive tout autour de la zone du vaisseau. Et c'est très proche de son vaisseau. Donc on commence à se déplacer dans le vaisseau, hop, c'est radioactif, on recule. Voilà, il y a tout plein de paramètres à gérer. Et le jeu est d'une richesse. Encombrante presque. C'est-à-dire qu'on arrive.
Oui, alors c'est bizarre, quand tu as dit d'une richesse, j'allais dire oppressante. Mais c'est
l'idée. On est un peu sur ouais. la même idée. Hein. Ouais, ouais. On est toujours sur une oxymore. Voilà, on ouvre son menu et on fait oh là 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 là, qu'est-ce que Donc il y a plein d'objets, plein de recettes de craft. L'ordinateur vous aide un petit peu, vous dit oh là là, peut-être que tu devrais penser à faire une combinaison anti-radiation, je sais pas, c'est pas comme s'il y avait des radiations à 100 mètres de chez toi, mais bon voilà. Donc on commence à regarder, bon alors, combinaison anti-radiation. Alors, il me faut ça, ça, ça. Donc ça, c'est un truc spécial. Donc il faut que j'aille remonte dans le menu, alors il faut que j'aille ça, ça, ça. Et on est là, voilà. Ben, c'est un peu galère. Alors. Je vais pas mettre ça en défaut parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens
c'est
qui
un
aiment
choix de
bien
vie,
ça.
C'est un... il faut aimer ça, il faut avoir cette fibre
c'est un choix de vie.
Entrer dans les menus sous menus.
Voilà, c'est ça. Et d'autant que
on n'est pas accompagné du tout.
On est un peu accompagné quand même.
Dans un premier temps.
Ouais, dans un premier temps.
Alors légèrement.
Légèrement.
Par rapport à ce qu'on peut appeler didacticiel, tutoriel dans un jeu normal, là non. Moi, pour avoir mon expérience de début de jeu, hein, ça a vraiment été. Je plonge. Oh, c'est beau déjà. C'est...
Ouais.
Déjà, je trouve ça, de bon goût. Le design est super agréable.
Ça accroche l'œil, mais c'est aussi un des défauts. On va peut-être en parler après. Mais c'est joli. En tout
cas. La mécanique est agréable aussi. Par exemple, quand tu remontes prendre de l'air, parce que tu as un nombre de secondes sous l'eau possible, il y a vraiment le côté un peu dauphin, où tu sautes et tu replonges tout de suite, alors, que je trouve assez agréable en fait.
Peut-être qu'il me manque un truc, moi j'en ai marre, parce qu'à chaque fois je saute et je ne chope pas assez d'air, je replonge, donc j'arrête de reprendre de l'air, je dois refaire plusieurs allers-retours pour récupérer toute mon air, mais peut-être je m'y prends mal, donc je ne vais pas...
Et pour le coup, il y a quelque chose d'assez agréable, mais de très déroutant, en tout cas dans le départ, parce que... on te dit vraiment pas grand chose. Et alors, c'est assez marrant, c'est au bout de 43 quarts d'heure, une heure, je me suis vraiment dit, bon, là, j'arrête, j'ai l'impression de rien capter, je vais regarder sur YouTube, on va m'expliquer bien. Et pile à ce moment-là, du coup, je suis rentré vraiment dans l'idée de sauvegarder dans la capsule pour me renseigner un peu plus. Et puis à ce moment-là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Alors, je ne sais pas si c'est pensé au niveau du design ou tout ça, mais il y a quelque chose qui s'est débloqué. J'ai commencé à aller effectivement dans les menus, dans les bons menus, dans les bons sous-menus, à me fabriquer mes premiers éléments. Et du coup, c'est ce moment-là où on sent aussi le potentiel, où on sent aussi que c'est pas un jeu qui va te faire ultra galérer tout okay. le temps, j'ai l'impression.
En fait,
mais
là,
c'est une impression de début de jeu.
Le jeu ne te fait pas galérer ad vitam aeternam dans le jeu, parce que là, je commence à arriver à un moment où je commence à percevoir le moment où je vais un peu arrêter de galérer. Tu vois, c'est-à-dire que là, je commence à arriver à un moment où je peux repérer les éléments sur mon HUD.
C'est-à-dire combien d'heures de jeu en fait ?
Je suis à 8-9 heures de jeu, et je viens de finir l'élément qui me dit en fait dans mon HUD, tiens, là, il y a un truc à casser. Quoi.
Oui.
Pardon, mais je sais bien qu'on est sur un jeu de survie, crafting un peu hardcore et tout ça.
Il faut quand même de l'investissement.
Mais il faut un peu d'investissement, il faut s'accrocher un peu. Quoi. Et encore, c'est parce que quelqu'un m'a dit, je te conseille de faire ça parce que... Voilà. Là, alors, je jouais donc en streaming et il y avait des gens... Alors, il y avait deux catégories de personnes sur mon stream. Il y avait des gens qui s'énervaient parce que j'arrivais à rien et que je m'énervais moi-même et que ça me saoulait, que je critiquais, je râlais comme un vieux marin finalement. Et puis, les autres qui voulaient m'aider et c'était vraiment très agréable d'avoir des gens qui me guidaient un peu. J'étais très content d'avoir ces personnes qui me disent tu devrais peut-être te faire ce véhicule qui va te faire aller un peu plus vite.
Qui avaient joué ou pas du tout
qui ont
compris les mécaniques juste en regardant.
C'est là qu'à mon avis est la clé de ce jeu-là. C'est-à-dire que Subnautica, pour moi, c'est l'inverse d'un jeu normal. allez voir des vidéos YouTube, allez voir des Twitch, lisez des wikis avant d'y jouer. Parce que sinon, ouais, c'est, il est possible, je ne dis pas que ça va faire ça à tout le monde, que si ça vous énerve et que vous ne donniez pas sa chance au produit. Parce qu'il a une vraie richesse, ce jeu-là. Il a une vraie richesse. Non, mais c'est vrai. Il a une vraie richesse, ce jeu-là. Tu sens qu'il y a une vraie volonté, le monde, en plus, se dévoile. Au début, tu fais, bon, c'est un jeu de survie. Ah non, c'est un jeu de SF. Ah non, c'est un jeu. Puis tu vois, il y a de plus en plus de couches qui se rajoutent comme ça. Il y a de plus en plus de scénarios qui arrivent, qui te donnent un peu envie de continuer. Bon, je suis personnellement pas ultra méga séduit pour l'instant sur le scénario, mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui se rajoutent, qui font ah tiens, tu vois, genre un truc tout bête. Hein. Mais je pensais qu'il y aurait zéro terre, mais ça y est, j'ai trouvé ma première terre ferme sur laquelle je peux mettre les pieds. Et ça fait un petit quelque chose de trouver sa première terre ferme sur laquelle mettre les pieds. Ce genre de choses, c'est quand même agréable. C'est des petites découvertes. Mais voilà. Ce jeu, il a aussi, je pense, des manques basiques de design graphique qui font que ça le rend pas agréable. Tous les éléments brillent ou sont fluo ou sont machin, mais quasiment tous les éléments fluo ne sont pas utiles ou presque pas utiles, à part certains éléments. Genre les poissons sont extrêmement brillants, donc au début c'est très intéressant, il faut attraper le poisson qui va donner de l'eau, il est très reconnaissable, c'est une petite tache mauve, puis après t'as le poisson qui donne à manger, c'est un œil jaune bien visible, et puis après tu commences à avoir des champignons violets, c'est forcément important ça, les champignons violets fluo qui brillent, ah, j'en ramasse plein, et là il y a Corentin Lamy de Pixel qui arrive, il fait « Corentin, faut que je te dise un truc, tu ramasses beaucoup trop de champignons, ça ne sert à rien, je lâche mes champignons, très bien. » Et puis après, au bout de 3 heures de jeu, peut-être pas 3 heures, j'exagère, mais au bout d'une heure de jeu, il y a des gens qui font « Mais pourquoi tu ramasses pas des cailloux ? Comment ça, je peux ramasser des cailloux ?» Et t'as des cailloux, mais invisibles, enfin pas invisibles, ils sont un peu mis en avant, c'est des bosses de cailloux en fait. Et tu peux taper dedans et en effet, t'as des minerais qui sortent. Et là tu fais « Ah oui, non mais là, on va peut-être arrêter, vous pouvez pas le faire briller, vous pouvez pas lui mettre un… »
Le jeu n'est pas forcément toujours très indicatif sur ce que…
En fait, le design graphique n'a été pensé que pour être joli. Et pour moi, c'est un vrai problème dans un jeu vidéo, surtout de craft, surtout quand il y a des milliards d'éléments comme ça à récupérer, c'est important que ça saute un minimum à l'œil, ou alors qu'on donne des outils, genre un truc de scan général, et ça n'arrive qu'au bout de 10 heures de jeu. Excusez-moi de m'énerver au bout de la première heure.
Calme-toi.
Mais voilà, il y a pas beaucoup de temps dans les menus et les sous-menus, je pense.
Il y a beaucoup passé de temps dans les menus, et puis il y a des mécaniques de jeu qui sont essentielles, comme le scan, donc on doit se construire un scan assez rapidement pour en fait se faire une base de données, parce que la base de données va être très très utile, notamment pour ce système de HUD que je t'expliquais pour repérer les éléments beaucoup plus tard dans le jeu, mais même en fait ça te donne des indices, mais dans des menus, dans des Wikipédia internes qui sont vraiment pas sexy quoi, c'est des menus, tu dois les ouvrir comme ça, et puis
bah, mais est-ce que ça vaut le coup au final, parce que
tu, oui, il faut regarder les streams avant, en fait il faut connaître toute la grammaire du jeu avant de rentrer pour apprendre du plaisir, donc il y a des gens que ça plaît, j'imagine que ça doit plaire d'apprendre sur le tas et de devoir un petit peu galérer, c'est le jeu de la galère, si vous aimez galérer vous allez galérer, il y a pas de problème,
c'est un jeu d'investissement pour
c'est
moi.
Un jeu d'investissement,
c'est pas forcément un jeu de galère, c'est un jeu, c'est vrai qu'aujourd'hui bah avec les palanquées de jeux qui sortent toutes les semaines, c'est vrai que on est moins habitué à avoir un jeu qui va te demander comme
c'est
ça, clair. Surtout un jeu solo.
Oui, c'est ça la particularité. C'est peut-être ça. Ouais.
En multi et tout ça, on sait qu'on va aller, pour longtemps. Il y a du craft et machin dans un cadre multi, on est habitué. Mais là, dans un jeu solo, demander un tel investissement, une telle courbe de progression comme ça sur la longueur, avec un univers hyper grand à découvrir dans un cadre solo, c'est pas si souvent que
mais
ça.
Mais le jeu te le donne envie de le faire.
Moi, j'ai trouvé que c'était.
C'est ça qui est paradoxal. C'est que malgré toutes ces galères, j'ai quand même envie de voir la fin. J'ai quand même envie d'aller au bout. Même là, présentement, en voyant les images de jeu, j'ai envie d'y retourner, de continuer à jouer, parce que maintenant que j'ai des mécanismes qui se sont mis en place, c'est vrai qu'on prend un vrai plaisir.
Tu as appris à jouer au bout de quelques heures.
Mais voilà, ce côté didactique manque. Et en fait, je pense que c'est sur la promesse du jeu, c'est-à-dire que le jeu est quand même joli, a des jolis HUD et compagnie. Par exemple, sur Minecraft, j'ai pas eu ce souci-là. Parce que sur Minecraft, on te dit directement. Tout est craftable dans Minecraft, tu peux tout ramasser littéralement, à part certaines expressions, genre le bedrock. Et tout est craftable, et on te dit directement, il y aura très peu d'informations dans le jeu, donc va sur les wikis, c'est pas un problème. C'est limite, le jeu te dit, non mais les informations, elles sont pas là. Va les chercher. Là, il y a une espèce de fausse promesse. Enfin, c'est pas une fausse promesse. Ils font pas la promesse, évidemment. Mais on est induit sur le fait que le jeu va te guider, parce qu'on est aujourd'hui quand même, on a des bons designs pour nous guider, notamment au début des jeux, sur les tutoriels, sur les menus. Et comme on a la fin, on est un peu laissé quand même un peu pour compte à ce niveau-là. Eh ben, il y a cette petite frustration qui peut se créer pour des joueurs comme moi. Je suis un exemple de joueur parmi d'autres. Mais voilà, soyez juste prévenus. Si vous êtes du genre pas patient comme moi, peut-être allez voir des streams ou des joueurs YouTube. Par contre, oui, en effet, à la fin, il y a une belle bagatelle, je pense. Le jeu a l'air d'une richesse assez incroyable. On sent qu'il y a eu du travail. Et bon. J'ai hâte de voir la fin en ce qui me concerne quand même.
Non, c'est clair. C'est une vingtaine d'euros sur Steam. Le détail qui a son importance, il est compatible VR.
Oui.
Donc, cher Patrick, hein, le détail qui peut.
Ça peut changer sur un jeu comme ça. Ça peut être la petite carotte en plus. voilà.
Non, mais après.
Elle a le mérite d'être là.
Je ne sais pas à quel point elle est. C'est une VR qui. Qui est jouable, parce que moi toujours ce problème d'un avatar qui bouge. Après je sais que la plongée d'une manière générale en VR passe plutôt pas mal.
Il y a notamment en général ce qui joue beaucoup contre la cinétose dans la VR, c'est d'avoir des éléments fixes à l'écran, et en l'occurrence on a toujours le masque.
Ouais.
C'est un repère fixe qui donne au cerveau l'idée que t'es peut-être dans un véhicule ou t'es peut-être dans un habitacle. Ouais. Donc
je sais pas à quel point ça provoque de la cinétose, mais voilà. Donc Subnautica, une vingtaine d'euros sur Steam pour l'instant, enfin sur PC pour l'instant. Je sais pas si c'est que sur Steam, mais bon, bref. On va passer, alors là encore, hein, c'est Subnautica Early Access depuis 2014. Là, on va passer à un jeu qui était en Early Access depuis 2005. La version bêta est sortie sur PlayStation 3 en 2011 et on vient d'avoir la version définitive aujourd'hui, c'est Shadow of the Colossus. Autant dire que... est-ce qu'on n'a plus le droit de dire culte? C'est chiant, mais... mais Shadow of the Colossus, Fumito Ueda, deuxième jeu après Ico, qui...
Iconique.
Merci.
Je sais pas.
À l'époque, jeu très attendu parce qu'il y avait ce Ico qui était venu avant, et puis il y avait cette promesse, et peut-être la première fois où il y a un effet de changement d'échelle, de différence d'échelle qui est à ce point utilisé avec ce talent-là. Donc on arrive, Wander, c'est ça Wander
Wanderer, je ne sais
Wanderer,
plus.
Je ne sais plus. Bref, pour sauver l'âme de sa bien-aimée, il va devoir détruire des géants de pierre sur ordre d'une divinité un peu chelou.
Qui nous parle bizarrement.
On sent bien qu'il y a un truc derrière qui est pas net.
Un peu cavalier parfois.
Oui, c'est ça. Et on part comme ça à cette aventure à cheval, dans ces plaines désolées. Et on va partir au combat pour abattre ces monstres assez touchants, finalement, aussi pour certains. Alors, Patrick, ça a fait quoi de revenir
C'est un monument. Je pense qu'on pourrait rester tous les trois autour de la table pendant 3 heures et parler chacun de notre perception de ce jeu.
Je pourrais vous écouter pendant 3 heures. Je n'ai pas joué à Shadow of the Colossus. Encore, mais j'ai hâte, il me fait envie, il fait très envie.
Non, c'est intéressant parce que ça, on a toujours su que ce jeu était important dès 2004 ou 2005, même lorsqu'il est. On a toujours su que c'était une date dans la façon d'appréhender un espace, une action dans un jeu vidéo. Et c'est marrant d'y rejouer aujourd'hui et de se rendre compte d'autant plus de l'importance de ce titre et du fait que c'est une date. Moi, en le relançant, je me suis dit, mais c'est dingue, comme Zelda, le dernier Zelda, par exemple, doit à ce titre. Je pense que vraiment, je pense qu'il y a vraiment il s'est passé quelque chose sur ce titre en termes de façon d'appréhender la géographie dans un jeu, déjà, l'espace, même si on est... En fait, on est dans un monde ouvert vide, complètement vide. Et ce qui est toujours pétrifiant dans ce titre, quand on se replonge dedans, c'est il y a une tristesse, une mélancolie qui est omniprésente pendant tout le jeu. Et la façon dont il détricote un petit peu nos habitudes de joueurs. Avancer dans un univers avec des objectifs, des boss à abattre, et puis toujours ce côté valorisant. J'ai battu un boss, avec souvent il y a un côté assez jouissif, même à l'écran, c'est toujours bardé de.
Par la taille, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire.
Oui, mais t'as bastonné plein de mobs, et puis à la fin, t'as le boss, et t'es content.
Tu passes une étape, tu grandis dans ton jeu, parce que tu as passé quelque chose d'important, c'est un temps dans le jeu. Là, c'est tout l'inverse. On part dans cette aventure, et on est obligé de trucider ces géants qui finalement sont plutôt... En fait, ce qui est important dans ce titre, c'est cette... Et je crois que c'est assez unique à mon avis, c'est cette... comment dire, cette proximité qu'on crée avec, avec ces géants, qui sont finalement en fait des niveaux de plateforme à part entière, parce que pour les trucider, on doit monter sur eux, on doit vraiment s'approcher d'eux physiquement. Il y a ce système de grippe dans le jeu avec la, la gâchette qui fait qu'on a vraiment ce côté d'attraper, il y a un côté presque tactile.
Variation de cette touche qui permettait de tenir la main dans l'écho.
C'est la même chose d'attraper, de toucher comme ça. Et donc, on a vraiment cette relation très particulière avec ces géants physiques. On fait presque qu'un avec eux. Et c'est presque l'objectif de ces rencontres, c'est de s'agripper à eux et vraiment de les trucider. Et en fait, voilà, on vit mal. En fait, le jeu, plus on avance dans le titre, plus on trucide ces géants, on se sent de plus en plus mal. Ouais. Et ça, c'est vraiment la force de ce titre, c'est de nous renvoyer une image de joueur, c'est de nous dire qu'est-ce que tu fais dans le jeu. Pourquoi tu es là? On te donne des directives, pourquoi tu les fais? On les fait parce qu'on est là pour jouer aussi. Mais ça pose vraiment cette question de qu'est-ce qu'on fait ici et pourquoi on fait ça. Et c'est vrai que cette version, donc cette réédition PlayStation 4, elle est vraiment bien retravaillée en termes de visuel. Je trouve que le jeu, ça pose la question, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit rééditer un jeu vidéo, le retravailler, le remasteriser, le remettre au goût du jour. Là, c'est quand même la deuxième réédition d'un titre qui a...
C'est aussi, ce qu'on peut se dire d'emblée, c'est que tous les jeux n'y arriveraient pas.
Non.
Tu prends 99% des jeux qui sont sortis en 2004-2005, tu leur refais les textures et tout ça, bah, ils ne tiennent pas la route.
Il poussait très loin la console de l'époque aussi. On sentait que la bécane avait beaucoup de mal
unique
à suivre.
C'était une proposition tellement unique qu'elle n'a pas été revisitée, améliorée. Ça a été important parce que, par exemple, cet effet d'échelle qu'il y a avec les géants, on l'a retrouvé dans d'autres jeux. On l'a retrouvé dans un Castlevania, retrouvé dans Breath of the Wild avec les quatre machines.
Qui sont,
je pense que pour les joueurs qui ont joué à Shadow, les quatre machines de Zelda, il y avait quelque chose qui rappelait vraiment ça. Mais c'est un jeu qui n'a pas du tout vieilli dans sa proposition.
Il y a des vraies fulgurances visuelles. Il y a des parties prises même de caméra, de mouvement de caméra. C'était une des problématiques du jeu. Il y a toujours un petit moment où on se bataille avec la caméra. Je trouve qu'elle n'est pas parfaite. Mais il y a des moments où le jeu...
C'est de l'époque en même temps.
Ça a toujours été un des petits soucis du titre. Mais il y a toujours ces moments où le jeu reprend la caméra en main de façon très discrète, mais il la reprend quand même. Et c'est épique. Il y a vraiment des moments où on part à cheval comme ça et la caméra joue sur les angles. Et c'est, en termes de mise en scène, c'est vraiment... Il y a des images qui restent de ce titre. On garde vraiment des images qui restent imprégnées parce que c'est des moments aussi de solitude en tant que joueur. On est seul. Aujourd'hui, on est habitué aux jeux connectés, aux jeux à plusieurs, avec toujours des personnages qui nous parlent, qui viennent nous aider. Là, il y a une solitude. Ce héros, il est seul face à cette sorte de malédiction. Il y a un côté très faustien dans ce deal qu'il passe avec cette entité qui lui parle, qui lui dit, voilà, il va falloir trucider ces géants qui t'ont rien fait, mais fais-le pour sauver cette jeune fille qu'on voit au début, qui c'est l'enjeu du titre. Et vraiment, je pense que ce qui construit ce rapport particulier qu'on a, c'est cette solitude, à part le cheval qui nous accompagne, qui est aussi un personnage important. Il y a vraiment un rapport très particulier qui se tisse entre le joueur et cet univers.
Ouais.
Et le fait que l'univers est vide, mais finalement plein de sens. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est une date. Et d'autant plus quand on y rejoue en 2018, c'est confondant de se rendre compte comme ce titre avait vraiment eu des fulgurances sur la mise en scène,
C'est vrai qu'en 2005, c'était un titre qui poussait un peu la PlayStation 2 dans ses retranchements.
Qui racontait quelque chose. Enfin, c'est aussi montrer que le jeu vidéo peut raconter poser des vraies questions en fait sur son autre rapport de joueur avec l'univers d'un titre.
Ouais, c'est d'une certaine manière un titre postmoderne du jeu vidéo, qui remet en question lui-même son média.
Oui, mais pas dans un délire méta qu'on a retrouvé après, mais c'est il pose des questions par son gameplay et tout ça.
Après l'entité, j'imagine que c'est quand même une symbolique qui représente un peu le joueur d'une certaine manière. C'est une critique du média lui-même.
Chacun, je pense, peut projeter plein de choses dedans. C'est aussi la force des grandes œuvres, c'est qu'on peut toujours projeter beaucoup de soi-même et de sa perception. Après, il y a des petites choses, je trouve, qu'on vieillit très clairement. Mm. Les angles de caméra, le système un peu de localisation des prochains géants.
Je le trouve emblématique du jeu.
C'est emblématique. Alors, c'est figé parce que ça fait partie de l'œuvre de 2004-2005. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, ça a pris un petit coup de vieux. Maintenant. Voilà,
ça reste dans l'ambiance.
Et retoucher aurait pu être aussi un piège de vouloir tout retravailler, les techniques, les mécaniques du jeu. Ça aurait été aussi le changer et peut-être qu'il ne fallait pas.
Mais j'ai été vraiment surpris de ma propre expérience de... du plaisir pour le coup que j'avais pas retrouvé vraiment en 2011 avec la réédition sur PlayStation 3, qui était plus une réédition finalement. Là, c'est un vrai remake. C'est incroyablement. Enfin, t'as pas du tout l'impression de jouer un vieux jeu. C'est vraiment un jeu, mis à part peut-être quelques détails de caméra, sont assez dérangeantes en 2018, mais pour le coup, mis à part ces quelques petits détails, on n'a pas du tout l'impression de jouer à quelque chose de daté.
Parce qu'il y a une épure même dans l'interface. Ouais. Tout est épuré, aussi bien l'environnement que l'interface, qui fait que...
L'interface, elle est quasi inexistante.
Mais c'est pour ça, il y a une épure totale, je trouve, du jeu qui fait que...
35 euros, pas beaucoup. Et ça marche très bien aussi, ça c'est important, ça s'est bien vendu.
Oui, j'ai vu mieux que sur PS2.
Alors que voilà, les jeux de Fumito Ueda, d'une manière générale, c'est des jeux qui sont reconnus pour leur qualité, mais pas pour leur chiffre de vente. Et je crois que. Alors, je crois avoir lu ça, que ça a fait un meilleur départ en 2018 qu'en 2005.
Et je trouve que c'est un bon signal aussi, la perdurance comme ça d'une œuvre sur les années dans le jeu vidéo. C'est important aussi de montrer qu'un titre peut s'inscrire comme ça dans la durée et rester. Et ça, je trouve que c'est important.
Il est mieux sorti là. Enfin, il y a pas grand monde là en ce moment en face.
Oui,
il est un peu
tout
seul. C'est peut-être cool.
Et puis, l'auteur est connu aussi aujourd'hui. Il a un peu plus de.
The Guardian avait marché ou pas, The Guardian?
Je ne sais pas. Je n'ai pas. Mais
bonne question.
On va étudier la question. Allez, on va continuer. Donc 35 euros sur PlayStation 4, évidemment. On va continuer avec un jeu de chez Devolver, de Deconstruct Team. Un jeu d'aventure, pour le coup, univers cyberpunk plus, peut-être même jusqu'à la caricature, on va en parler, Red String Club. Club, vous avez toujours rêvé d'être barman, de faire des cocktails et évidemment. Eh bien, c'est la proposition de Red String Club qui a mis ce gameplay au cœur d'une aventure dans un futur forcément dystopique, forcément où les méga corporations contrôlent le monde via des implants et d'une suprématie totale financière et politique. Bref, c'est un monde, un cyberpunk qu'on connaît. On est en terrain. On est chez nous. C'est une sorte de dystopie cyber, machin. Il y a pas de souci.
Des manipulations.
Et on se retrouve dans un pub, dans un bar de nuit, une sorte de piano bar de nuit, on va dire. Où on va incarner Donovan, barman de son état et pourvoyeur d'informations.
Ouais, on joue avec le trope du barman qui est là pour écouter son client et qui, alors en l'occurrence pour Donovan, c'est pas toujours le cas de tous les barman, heureusement, mais récupère et revend des informations d'importance sur le monde cyberpunk dans lequel on se trouve. Il se trouve que notre ami Donovan, il est partenaire avec Brandeis, qui est on sent que un lien très 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 fort qui les unit tous les deux. Grosso modo, Brandeis, il va sur le terrain et notre ami Donovan, il reste sur place.
Il fait des cocktails.
Et en fait, ces cocktails.
Il n'a pas d'implant,
il faut le savoir. Donc, il est, on va dire, il est 100% naturel, 100% biologique. Notre ami, comment s'appelle Donovan, j'oublie toujours son nom. Et alors, Donovan, lui, sa petite astuce, c'est qu'il utilise des cocktails, en fait, pour stimuler certaines émotions chez ses clients, pour leur soutirer donc ces informations. Par exemple, en suscitant du stress chez une personne, il va peut-être réussir à obtenir des informations que la personne en question aurait protégées si elle n'était pas stressée, ou à l'inverse, il va détendre une personne en lui faisant un cocktail doux et sympa et tout ça. Donc, y a tout un système de jeu qui est mis en place, au-delà même du choix de dialogue qui est classique dans ce genre de jeu, qui est donc une espèce de... on pourrait dire visual novel. Je pense que c'est quand même un peu un visual novel, même si...
Plus sur les point and click, parce qu'on n'a pas du tout de logique de point and click avec un curseur qu'on va balader et chercher des indices. C'est pas du tout ça. On est vraiment sur un jeu très écrit, très dialogué, avec du choix multiple. Et l'originalité, c'est les mini-jeux intégrés.
C'est les mini-jeux, mais ça, même ça, c'était, enfin, on pouvait s'en douter de la part
des constructives,
je dirais, donc qui sont espagnols et qui avaient déjà fait God Will Be Watching, qui était déjà un jeu.
Qui questionnait pas mal, justement, les mécaniques du point and click.
C'est ça, et qui était un jeu très... alors, c'était plutôt basé sur résolution de crise. On avait des crises et il fallait les résoudre.
C'est comme un point and click, si on pouvait parler de point and click, qui arrivait à générer un stress chez le joueur, ce qui n'est pas forcément l'habitude dans cette catégorie de jeux.
La seule fois où ça m'est arrivé, c'est à la fin de Full Throttle, tu vois, donc...
Il y en a quelques-uns qui ont parfois des fulgurances comme ça de stress, mais ce n'est pas la chose la plus commune. Et lui, vraiment, était basé là-dessus, créer du stress. Avec des choix assez compliqués à faire.
Et donc là, c'est vrai que l'aspect point and click, comme tu le pointais, point and click, c'était le... Moi, je clique. Du coup, c'était le... Il y a assez peu de point and click.
C'est vrai
qu'il y en a un peu au tout début du jeu. Voilà,
certains éléments décor, mais très, très réduits.
On incarne un android, on se déplace légèrement dans une salle, ce genre de choses. Tantôt Brandeis, tantôt...
Le cœur du jeu, ce sont ces gameplay des mini-jeux, on va dire.
Finalement, ils sont assez peu nombreux, mais on va quand même les aborder.
Ils sont quand même très
marquants. Voilà, il y a ces moments, donc c'est le mini-jeu le plus classique, on va dire, celui qu'on va faire le plus souvent, c'est faire des cocktails.
Donc, ça, c'est une vraie réussite.
Il y a un petit moteur physique qui a été fait spécifiquement pour faire des cocktails. Donc, on a 4 bouteilles, un verre, des glaçons, et la personne qui est en face de nous. Et cette personne, ses émotions sont représentées par des cercles. Et en fait, on va devoir utiliser chacune des bouteilles pour déplacer un cercle.
Dans un sens, selon ce qu'on va. Et là, il faut.
Et il faut, en fait, faire. Correspondant le cercle de notre verre avec le cercle de la personne.
Parce qu'en utilisant des glaçons, on fait diminuer le cercle.
On fait diminuer la taille du cercle, parce qu'on dilue en fait.
Et puis il y a une progression. Au début, on commence tout simplement avec des cocktails. Ensuite, il y a le shaker. On commence à faire des cumuls, etc.
On donne de plus en plus
ça se complexifie bien. Et ça, c'est vraiment la trouvaille du jeu, je trouve, cette partie.
Et puis c'est bien amené. Parce qu'en fait, on pourrait dire oh là là, mais des bouteilles qui font bouger un truc, comment on sait dans quel sens on va. Mais en fait, chaque bouteille a des indices visuels pour dire dans quel sens ça va. Et c'est fait de manière extrêmement subtil et tout. Au début, tu fais, mais comment je vais faire? Parfait. Ah, j'ai compris comment on fait, c'est bon.
Je vois.
Parce qu'en fait, la décoration de la bouteille vous indique dans quel sens le cercle va bouger. Donc, d'un seul coup, vous savez où vous allez.
Il y a le choix, il y a les dialogues qui sont importants dans le jeu, mais même la réalisation du cocktail est un choix de dialogue, parce qu'on va choisir aussi quel effet on va vouloir donner au cocktail pour la personne en face. Donc, ça s'intègre aussi dans la logique même du jeu d'interagir avec les personnages. Donc, ça, c'est vraiment. Je trouve que c'est intéressant, c'est une vraie trouvaille. Et ça marche bien.
C'est une trouvaille dans le sens, en effet, ça peut être sympa, ça peut être vraiment bien utilisé, cette idée. Je pense qu'il y a vraiment des construct team a vraiment mis le doigt sur quelque chose de sympa choisis une émotion, touche-la avec ton cocktail et ensuite...
Ils auraient dû faire que ça.
Ensuite, débloque. Ouais, voilà, ils auraient dû faire que ça.
Ils auraient dû faire un jeu de cocktail. Il fallait peut-être choper la licence du film Cocktail avec Tom Cruise et puis ça.
Non, c'est dommage, je pars basé sur ce mécanisme
qui fonctionne.
On va en discuter parce que j'ai un autre jeu à parler avec ça parce que impossible de pas faire le lien. Mais du coup, moi, ce que je trouve dommage, et c'est vu que c'est un jeu d'enquête et c'est souvent le problème dans les jeux d'enquête où il y a des interrogatoires où il faut jouer avec les émotions des gens, c'est que tu ne peux pas. Évidemment, sinon ce serait trop facile, mais tu as un problème, c'est un peu de la chance, quoi. Quelle émotion va déclencher quelle chose? Les gens, parfois, ont des réactions complètement irrationnelles. Les personnages dans le jeu ont des réactions irrationnelles par rapport au cocktail que tu leur donnes. Genre, tu vas leur donner, vas-y, on va bien les détendre pour qu'ils te donnent beaucoup d'informations, et puis le mec, il va se braquer parce que, oh là là, non, tu crois quoi? Tu crois que tu vas m'avoir en me détendant comme ça? Ça ne marchera pas sur moi. Comment je pouvais le savoir? Je peux pas le savoir, ça. C'est compliqué.
Tu as l'ingrédient reboot que tu obtiens. Permet de réinitialiser une conversation
utilisable une seule fois. Voilà, évidemment. Alors, toutes ces actions, tous ces dialogues, les informations qu'on va obtenir, les situations qu'on va réussir à désamorcer, parce qu'il y a aussi des situations comme ça où la conclusion va changer en fonction des réponses qu'on va donner, va nous permettre de se déplacer en fait dans une espèce de schéma qui va représenter.
Une ligne rouge. Mmh.
Voilà, oui, malin. C'est ça, donc une ligne du destin un petit peu. Dont on connaît l'issue puisqu'elle est révélée dès le départ du jeu, je ne la révélerai pas, vous verrez bien pour ceux qui lanceront le jeu, mais grosso modo, vous voyez déplacer comme ça de haut en bas, en diagonale, avec vous avez convaincu machin de dire ceci, vous avez fait douter bidule, vous avez sauvé machin de telle situation, vous avez envoyé tel tortionnaire chez telle personne pour se tirer des informations de manière un peu plus violente, oups, ça s'est mal passé, ou oups, ça s'est bien passé, ou oups, ça, votre mec a été tué, enfin, il y a plein de solutions possibles. Et du coup, voilà, on évolue et le monde se façonne, voilà, avec le classique.
Tout ça est très bien. Le vrai problème, c'est le jeu de poterie, parce qu'il faut qu'on en parle du jeu de poterie. Non, mais alors, il va falloir qu'on en parle, les gars.
Parle du jeu de poterie, on parlera des vrais problèmes.
Moi, j'ai failli décrocher du jeu à cause de
alors,
ça.
C'est
en
au
fait,
début, hein. C'est un gameplay unique. Ça dure une vingtaine de minutes, peut-être.
Il y en a quelques-unes. En fait, c'est dans la création des améliorations qui sont proposées. On incarne donc un des agents. Cybernétique qui doit créer ses améliorations. Et là, on a un mini-jeu de poterie, en fait. Hein. Oui.
Voilà, vous voyez, c'est vrai qu'il y a comment je fais sur un
souffle de Ghost, il faut faire ça et ça dure. Et le problème, je pense qu'en fait, ça aurait très bien marché en mode tactile. Je pense que sur une tablette, mais je crois pas que le jeu soit sorti en version tactile.
Je crois pas, non.
À la souris, c'est. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas précis du
en
tout.
En même temps, ouais, alors pas précis, mais il est très tolérant. Oui, il est très très tolérant. Ouais,
encore heureux.
Mais heureusement, parce que franchement, enfin moi j'ai vraiment galéré. Ça a failli me faire décrocher. Heureusement, après il y a cette partie sur sur les cocktails qui est beaucoup plus sympa et qui est vraiment réussi. Mais les poteries, c'est long. Il y en a beaucoup à faire et je trouve que c'est mal fichu en fait.
Mais ça, encore,
et c'est pas précis à la souris vraiment. Ça marche pas bien.
Ça c'est presque un mauvais moment à passer encore. Tu
ouais,
vois.
Vraiment. Ouais. Enfin moi je l'ai vécu comme ça. Ouais, ouais. C'est vraiment un cap à passer. Alors que voilà après le jeu décolle. Mais
alors moi je suis pas. Alors bon d'une part moi ça m'a fait plutôt rire et tout ça. Et après, c'est le début où tu sens qu'on va avoir des choix bizarres. Parce que tu choisis les. Oui. En fait, tu as des clients qui veulent des améliorations. Et ils ont un problème. Et toi, tu vas choisir quel implant tu vas leur mettre. Est-ce que tu vas lui donner l'implant du charisme ou l'implant de j'en ai plus rien à faire de ma notoriété. Et y a des choix comme ça qui vont être à faire. Et ça, c'est amusant parce que tu sens bien que. En fait, qu'on retrouve un peu cette philosophie des Walking Games, finalement, tu mets en scène ta propre histoire. Parce que tu sens bien, et c'est le design de ce fil rouge, de cette arborescence qui va se créer au fur et à mesure du jeu. Cette arborescence, elle va de gauche à droite. C'est pas une arborescence éclatée où tu sens que tu vas aller dans une direction plutôt que d'une autre.
Il n'y a pas d'illusion du choix, là.
C'est une petite variation, en fait. C'est comme un électron encéphalogramme. De ta partie. Mmh. C'est-à-dire que tu vas vers une direction qui est écrite d'avance, mais finalement, tu as différents moyens, différents schémas qui vont te permettre d'y arriver. Et moi, j'ai trouvé que ce jeu de poterie était une sorte d'introduction à ça, qui va après nous permettre de découvrir un peu le type de choix qu'on va pouvoir
faire.
Je peux être d'accord avec ce que tu dis, notamment sur la question du choix. Et moi, j'ai trouvé ça malin de dire, bon, est-ce que je donne la notoriété? Est-ce que je lui donne une conscience sociale réduite? Mais tu aurais pu le faire avec juste qu'est-ce que tu lui donnes, quoi. Oui, ou alors avec un choix de cyberplan déjà fait. Bon. En vrai, le jeu de poterie, c'est un détail.
Oui.
Moi,
oui.
Mon vrai problème avec ce jeu, c'est que finalement, il choisit jamais, alors qu'en effet, comme tu le dis, la ligne rouge du jeu, elle est assez linéaire finalement. Donc, il y a une histoire qui est écrite. Alors, qui est écrite. On va dire que c'est en dents de scie. Il y a des moments vraiment cool, et puis il y a des moments un peu moins cool. Ouais. Là, il me semble quand même que la traduction est pas. Je sais pas comment est la traduction, mais
moi,
ouais.
Je la trouve plutôt pas mal.
En fait, c'est un parti pris. Il y a pas mal, il y a des gros mots,
mal écrits, je trouve. Il y a certains qui sont un peu.
Il y a des passages qui sonnent un peu faux, puis il y a des passages qui sonnent extrêmement vrais. Ouais. C'est très bizarre. C'est tout est tendance de toute façon dans ce jeu d'un point de vue scénario. Et en fait, il y a quelque chose qui me dérange aussi dans la construction de l'univers quant à ce jeu, c'est que voilà, l'univers est un peu rentré de manière forcée. C'est-à-dire que voilà, il y a ce trope que j'aime bien pour ceux qui connaissent TV Trope, donc ce cliché scénaristique qui s'appelle As You Know Bob, où le personnage voilà va dire bon oh là là vraiment, c'était difficile la journée aujourd'hui. Mais oui, mais enfin, tu sais, Bob, c'est normal vu la crise actuelle de 1973. Bon, elle dit n'importe quoi.
Contextualisation voilà. Un petit peu forcée.
Donc on te dit, mais tu sais bien, c'est à cause des mégacorporations qui gouvernent toute la ville. Bon, bah oui,
on
mais
sait
voilà.
Que ça, voyons,
et puis les résistants, voilà, on t'explique un peu de manière un petit peu, on va dire, pas subtile toujours. Alors évidemment, plus ça avance, plus le scénario s'installe et moins c'est le cas. Mais au début, moi, ça m'a un peu marqué. Et du coup, c'est un peu dommage. Et aussi voilà, c'est dommage que voilà, tu avais parlé de ce fil scénaristique qui est assez restreint pour un jeu avec des choix. Le jeu te laisse beaucoup de questionnements ouverts pour toi. Alors, c'est un côté boîte à questions philosophique qui est sympa. Genre, plus le jeu va avancer, plus on va te poser des questions. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu faire deux, trois fins un peu plus violentes.
Changeantes et complètement. Parce
que là, c'est juste des détails dans le texte, en fait, qui changent au final. Alors, tu te retrouves à la fin avec tes propres questionnements.
Mais tu sais bien que même depuis toujours, les Walking Games ont la même fin et c'est pas le problème.
Dans ce cas-là, prenez un choix, prenez un parti pris scénaristique.
fantastique.
Mais non, justement, c'est tout l'idée.
Ce qui est vraiment dommage, à mon avis, quand je vois la différence de réussite entre le gameplay de Cocktail et les autres gameplays, parce qu'il y a le début avec la poterie, la fameuse poterie, hein, et puis même la dernière partie du jeu où on a aussi des... c'est laborieux, c'est mal fichu, et je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas, ils auraient dû oser finalement l'unité de lieu. Je suis très unité de lieu, comme dans The Inpatient la semaine dernière. Il fallait peut-être rester dans ce bar, se dire en fait toute l'aventure vue par le prisme de ce barman, avec ses rencontres, ses discussions, et faire entier tout basé sur cette activité de Cocktail qui est vraiment réussie pour moi. Le gameplay marche, fonctionne très bien. Et je me dis, il fallait oser, il fallait faire tout, peut-être tout le jeu autour de ça, articuler toutes les interactions avec les personnages, parce que l'action se passe pas mal dans le bar, mais pas assez. Et finalement, dès qu'on en sort, c'est moins bien réussi, les gameplays sont moins concluants. Il fallait peut-être oser le
lieu. Et c'est là que j'interviens. J'ai le jeu pour toi, parfait. Ça s'appelle Valhalla. C'est pareil, c'est du barman cyberpunk. Fallait le faire quand même. Du jeu de barman cyberpunk.
Parce qu'une version VR, c'est pas mal.
C'est un peu otaku, c'est très verbeux, mais ça reste dans le bar. On interagit uniquement avec les gens, on choisit même pas de texte. C'est uniquement avec les cocktails que tu choisis de leur donner ou pas. Et ça parle de tous les sujets de Red Strings Club. À la différence de Red Strings Club, en fait, qui pour moi, et c'est pour moi c'est un défaut qu'ils ont fait, ils ont voulu mettre quand même le héros qui est Donovan. Ils ont voulu le mettre au centre de l'histoire et au centre de l'action. Mais non. T'as raison. Le barman, il est rarement au centre de l'action.
Il peut suivre à distance, mais.
Et dans Valhalla, on observe tout le merdier qu'est le cyberpunk avec les conglomérats, les améliorations, le racisme, les robots, les machins. Ils mettent tout ça, mais tu peux rien y faire. T'es barman. Tu peux rien y faire. Tu peux être juste là à écouter les problèmes de tes amis, leur servir les bons verres et tout ça. Ça va trop loin, quoi.
Aussi que le barman peut aussi intervenir d'une certaine façon.
Mais
aussi,
à distance. Moi, entendre les catastrophes au téléone.
C'est pas mal. Sachant que ça marche bien, il a aussi un rôle dans cette.
Alors, pour parler quand même, parce que on a évoqué. C'est vrai que c'est. Alors, pour un jeu d'aventure, c'est un jeu qui a des gameplays. Alors, des gameplays qui sont pas toujours réussis, qui sont parfois réussis, parfois un peu pourris.
Ils tentent des choses.
Reste l'aventure, reste l'histoire. Ouais. Moi, j'ai trouvé quand même. Il y a la méga corporation Supercontinent qui va imposer un patch à ses implants qui va grosso modo mettre tout le monde sous Xanax ou.
Rend tout le monde heureux. Mais
rend tout le monde heureux.
Parce qu'il y a un programme qui s'appelle Bien-être psychique généralisé, le BPG.
Mise à jour des implants.
Au-delà de découvrir un peu plus sur cette opération-là, qui va être une sorte d'installation par défaut chez tous les utilisateurs. Donc il y a cette enquête qui va concerner cette installation du BPG, comment ils vont faire, quand est-ce que ça va se passer. On a une liste de questions, d'informations à trouver. Et évidemment, ça va être aussi l'occasion, par des dialogues, par des scènes, par des rencontres, par des questions, de réfléchir aussi. Enfin, c'est là où je trouve que c'est quand même sur l'écriture, sur la manière d'amener choses, sur les réflexions, sur les thématiques abordées, énormément basé sur les émotions. Alors moi, c'est toujours assez rigolo parce qu'il y a toujours cette quête. En fait, finalement, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que c'est un jeu qui ne déclenche que très peu d'émotions. C'est un jeu plutôt cérébral, enfin plutôt de réflexion, mais qui parle des émotions. Et c'est là où j'ai trouvé ça assez marrant, c'est la grande thématique qu'elle est traitée à la manière dont le cyberpunk peut le faire. Donc, mais je trouve que c'est quand même le contenu intéressant.
Ce que tu pointes là est absolument vrai. Ils réussissent là-dessus, notamment sur les émotions, parce que même avec les cocktails, en fait, on manipule les émotions. Le BPG parle des émotions. La plupart des choses, c'est genre, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions ? On finit avec plein de questions du style, est-ce que finalement... Enfin, on finit avec des questionnements que le jeu vous pose de différentes manières. Je ne vais rien révéler. Mais grosso modo, on a des choix philosophiques à faire. Le jeu vous force un petit peu. Mais c'est tendu. On pourrait me tendre un questionnaire. Ça serait pareil. Tu vois ce que je veux dire ? On pourrait me tendre un questionnaire. Ça serait la même chose. Alors que... On demande à des histoires habituellement pas de nous faire remplir des cases, mais plutôt de nous présenter des situations qui nous font réfléchir nous-mêmes sur certaines situations. Et à ce niveau-là, je pense que The Red Strings Club manque un peu le but qui s'est donné. Mais par contre, je suis d'accord avec toi qu'il touche des thèmes très intéressants. Et au moins, il a le mérite d'essayer sur cette thématique-là. Et le jeu vidéo n'y va pas forcément tout à fait souvent.
Red String Club, 15€, Deconstruct Team, édité par Devolver Digital. On va rusher, hein, on va faire un rush dans les DLC de Wolfenstein 2.
Joe Stallion, once a man living the American dream. Enter Uber Commander Roderick Metza. Now I was a slave to the Reich. The Nazis were about to put an end to my story. Well, that's what they thought. I was a hunter, a predator, following a trail of blood, burning with a singular purpose, to destroy Roderick Metza. I knew I was in for a heck of a fight. One thing was clear. Metza was a dead man walking.
On avait dit pas mal de bien de ce Wolfenstein 2, de l'histoire, de ce FPS solo qui proposait un univers, qui le construisait. Et c'était, ouais, c'était déjà quand même pas mal. Et arrive très très vite, hein, très très vite, ouais, après la sortie des DLC. Alors on n'est pas sur du DLC cosmétique, sur quelque chose.
On est sur du narratif.
On est sur du narratif, des nouvelles histoires.
Jeu en plus. Alors moi je crois que je n'étais pas là lors de l'émission sur Wolfenstein 2. Moi c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui était... Je trouve qu'elle est assez loin dans sa peinture. Moi, c'est l'univers, en fait, que j'aime bien, cette Amérique occupée par les nazis, complètement folle, avec le héros Blasco, le Barjo, qui est complètement... C'est un jeu qui est assez loin et qui m'avait vraiment laissé un bon souvenir, que j'ai refait même, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une vraie... C'est un jeu qui m'avait pas mal plu. Et donc, arrivé donc d'un Season Pass avec trois contenus qui sont en cours de sortie, on a eu deux épisodes là, qui sont disponibles aujourd'hui. Un troisième doit arriver courant mars. Alors en fait, l'originalité de ce Season Pass, c'est qu'il va mettre en scène au total trois nouveaux personnages dans des sections à part, avec des petites histoires courtes, mais qui viennent en supplément et qui ne sont pas forcément raccordées à celles du jeu original. Donc ça crée un petit peu des univers en plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre toujours des nouvelles choses dans cet univers complètement barré et assez fou. Moi, j'ai bien aimé la première partie qui met en scène Gunslinger Joe. Alors lui, c'était un joueur de football US. L'action se passe à Chicago. Alors évidemment, donc un nouveau personnage avec donc son histoire, avec une histoire compliquée avec son père. Lui, il est en quête de vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est que donc nouvelle narration et puis surtout une nouvelle faculté, c'est que lui, donc c'est un joueur de football US, donc sa faculté, c'est de casser les murs, c'est-à-dire qu'on peut, dès qu'on court, on peut péter les murs et ouvrir comme ça des passages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, contrairement au Wolfenstein 2, donc qui était un petit peu plus narratif, on sentait qu'il y avait une volonté de mise en scène, de raconter une histoire. Là, on est vraiment sur un contenu plus brut. Vraiment, on a un retour à l'action pure et dure. Vraiment, c'est l'ADN de Wolfenstein, de l'original. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que le côté, les velléités scénaristiques qui étaient là dans le Wolfenstein 2, qui sont là, qui sont intéressantes parce qu'elles créent vraiment un monde particulier avec cette Amérique occupée, etc. Tout ça s'est retiré. Là, on revient vraiment sur l'ADN de l'action pure et dure. Alors, certains crient au fait que bah, là, on a moins d'histoire. Finalement, c'est brut de décoffrage. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'est... On retrouvait l'ADN finalement de Wolfenstein, c'est-à-dire que c'est un vrai shooter bien musclé, un peu à l'ancienne en fait. C'est-à-dire qu'on revient vraiment sur un jeu de tir avec une difficulté assez costaud quand on monte en difficulté et avec vraiment un côté old school. Moi qui m'a plu parce qu'on creuse quelque chose d'autre par rapport au jeu original et je trouve ça intéressant.
Et le deuxième DLC.
Deuxième, donc c'est Silent Death. En fait, c'est un agent féminin, c'est une ancienne agent secrète qu'on va suivre, qui elle se venge aussi parce que son mari s'est fait tuer pendant l'occupation, etc. Là encore, alors là il y a une velléité du jeu d'aller vers quelque chose de plus lié à l'infiltration. Alors ça dure 5 minutes l'infiltration dans Wolfenstein, il faut pas se préoccuper de ça évidemment. Alors elle, sa particularité à cette ex-agent secret, c'est qu'elle peut passer elle peut ouvrir les trappes sous les portes et passer dans des endroits que les autres personnages n'auraient pas accédé. Oui, alors finalement, on essaie un petit peu l'infiltration et très vite, on part sur du bourrinage. En fait, ça tourne très vite en jeu d'action. Mais finalement, c'est ce que sait bien faire Wolfenstein. Et je pense que voilà, la piste d'infiltration n'est pas forcément une bonne idée. Ça ne marche pas très bien. Là encore, c'est intéressant parce qu'on explore de nouvelles cartes. Là, on est sur un studio en Californie, un studio de tournage, qui collabore avec l'ennemi. Et encore une fois, c'est l'occasion de faire une peinture des personnes, enfin, de l'environnement qui est si particulier dans cet univers, la Wolfenstein. Là encore, c'est l'action qui va prévaloir. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours de revenir dans cet univers, même si on sent qu'il y a quand même des réutilisations d'assets du jeu original. Il n'y a pas une originalité
folle. C'est normal, c'est le principe.
Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des portes d'entrée comme ça un petit peu différentes et de revenir finalement à une action brute, parce que c'est ce que c'est bien faire Wolfenstein. Et ça propose aussi un jour un petit peu complémentaire avec l'aventure originale qu'il faut avoir fait de toute façon. C'est vraiment un contenu additionnel qui vient pour ceux qui ont vraiment aimé le jeu.
C'est combien le Season Pass?
Je crois que c'est de 25 ou 30 euros. Donc il y aura trois aventures. La deuxième est sortie, la troisième le mois prochain. Voir en termes de dans les 3 heures par aventure. Donc voir le ratio. Et encore une fois, c'est vraiment de l'action brute. Qui est mis en scène ici. Donc, voilà, quand on a adoré comme moi le Wolfenstein 2 original, ça peut être une bonne occasion d'y revenir sous un autre jour, plus action.
Merci. Eh ben, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo. Le programme était chargé. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin ?
Mon cher Arwan, tout va bien se passer. Tout va bien. Vous êtes au bon endroit. The good place. Excellentissime série humoristique, donc plutôt récente, enfin en tout cas elle est sur Netflix. Je vous encourage à aller regarder ça parce que c'est super. Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'Eléonore qui est morte, voilà, simplement. Elle est décédée et elle se retrouve dans un simili-paradis où on lui dit, voilà, vous êtes au bon endroit, tout va bien se passer, vous avez fait de l'humanitaire dans votre vie, c'est super, on vous a préparé un truc aux petits oignons. Sauf que Eleonore, elle sait bien qu'elle n'a pas fait tout ça et que non, elle a plutôt une vie un peu médiocre en fait. Et que est-ce qu'elle mériterait pas d'aller en enfer finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas un immense malentendu cosmique? Et à cela découle une série de saisons que je vous laisse aller vérifier.
Autant la saison 1, j'ai vraiment accroché. J'avoue que la saison 2 m'a laissé un peu. Enfin, je trouve que. Il y avait un bel élan sur la saison 1 et je trouve que la saison 2 est un peu plus dans le patinage.
Elle se termine sur un aplat, je trouve, la saison 2. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt bien kiffé, moi, la saison 2.
La saison 1, je conseille un peu trop tant.
On peut pas trop en dire cette série.
T'as dit le maximum, je pense.
Hormis le fait que, voilà, il y a quand même Kristen Bell qui est à l'intérieur, que moi, j'adore cette actrice. Elle est pétillante, elle est super. Elle a le rôle principal. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Et que c'est le créateur, je crois, de Parks and Recreation qui est derrière ça et que vraiment. C'est très très drôle. C'est drôle et bienveillant. Donc c'est suffisamment rare aujourd'hui pour voir ça. Donc allez-y, c'est sur Netflix, les deux saisons. La saison 2 vient de se terminer.
Patrick.
Alors moi, le week-end, lorsque je ne joue pas, je chausse mon casque de réalité virtuelle et je vais dans des salons sur réalité virtuelle.
Mais bien sûr.
Tu retires ton casque pour en mettre un autre.
Non, le week-end dernier, il y avait le salon Virtuality qui prend place au 104 à Paris. C'était la deuxième édition cette année. Salon intéressant. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la réalité virtuelle, ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe dans le jeu vidéo, évidemment, mais aussi à côté. Parce que la réalité virtuelle, il y a beaucoup de choses. On s'en rend compte lorsqu'on va sur un salon comme ça. Il y a beaucoup de choses liées à la santé qui se développent. Alors, moi, j'ai parlé que des concepteurs d'une appli utilisée par des kinés, par exemple, qui visiblement, utilisent la VR parce que ça permet de faire des efforts qui sont moins ressentis difficilement parce que le patient porte un casque, où il y a aussi j'ai vu une appli pour lutter contre les phobies. Enfin voilà, il y a tout un champ, il y a tout un champ médical lié à la VR. Les tendances autour de la VR aujourd'hui, c'est qu'on sent que les salles d'arcade s'intéressent vraiment. A priori, il y avait pas mal de machines d'arcade construites qui intégraient la VR. Visiblement, les carnets de commandes les carnets sont pleins. Il y a vraiment une demande des salles ou en tout cas des salles d'exploitation pour avoir de la VR parce que ça apporte aussi quelque chose en réalité virtuelle. Puis une autre tendance, c'est l'hybridation avec l'escape room. Je sais qu'il y avait déjà quelque chose à Carré Sénart qui s'était lancé. Là, il y avait d'autres projets. C'est-à-dire que de l'escape room avec où chaque participant chausse donc un casque de réalité virtuelle. Donc on est dans un environnement de jeu vidéo, mais avec les codes de l'escape room en multijoueur. Ça ouvre des portes en termes de conception, d'immersion qui sont intéressantes. Donc ça, il y a des projets. Et puis il y avait aussi l'e-sport. Il y avait un jeu en e-sport. Il y a des velléités d'e-sport en réalité virtuelle. Un jeu qui s'appelait After Ash qui a été présenté sur le salon, qui se lance dans les mois qui viennent. Et ça pose des vraies questions. Sur l'e-sport et la réalité virtuelle, c'était un des créateurs du jeu qui expliquait justement ce qui est intéressant, c'est que l'e-sport conjugué à la réalité virtuelle, ça va avoir des exigences évidemment en termes de skill de joueur, mais aussi physique, parce que quand on joue 10 minutes sur une session, bah, il faut, quand on bouge dans tous les sens.
Pour le coup, moi, c'est totalement incompatible.
Ouais, bah, ça pose des questions. Ça pose la question. Justement, il y avait
même l'e-sport réalité virtuelle. Enfin, oui. À ce moment-là, on met des casques de réalité virtuelle, vous êtes sur un terrain de foot et vous jouez au foot. Ah ouais, ça s'appelle le
là,
foot
c'est
en
un
fait.
Shooter. On a vu c'est... des, on a vu des matchs.
On peut peut-être aller au-delà du sport normal quand même. Avec
non, mais
c'est un jeu vidéo, on
c'était,
fait
c'était un fast FPS, donc jouable en 2 contre 2. Ça pourrait aller jusqu'à 4 contre 4, a priori. À voir. En tout cas, ça ouvre des pistes de réflexion intéressantes.
Alors pour aller rapidement, en fait, il y avait cette histoire de hors-série sur l'intelligence artificielle qu'on avait fait en décembre. Ça s'est conclu fin janvier par un forum consacré à l'intelligence artificielle enregistré, qui a eu lieu au studio 104 à la Maison de la Radio. Forum qui a été filmé et en fait j'ai eu la chance, l'honneur et le plaisir d'animer la dernière rencontre. En fait, c'était un dialogue entre Yann Lequin, donc le chef de l'intelligence artificielle chez Facebook, et surtout le créateur de ce qui marche en ce moment en intelligence artificielle, c'est-à-dire le deep learning, l'apprentissage supervisé, et Enki Bilal, donc le dessinateur de bande dessinée. Ils ne se connaissaient pas, et il y a eu quelque chose, il y a eu un moment magique, enfin voilà, un dialogue entre ces deux personnes qui ne se connaissaient pas, l'auteur de SF et le chercheur fan aussi de SF, lui. Et donc voilà, il y a eu quelque chose qui s'est créé à ce moment-là, et c'est disponible aujourd'hui, enfin depuis quelque temps sur YouTube, c'est sur la chaîne du 56cast qu'on a mis ça. Donc voilà, vous pouvez aller voir, c'est le dialogue entre Enki Bilal et Yann Lequin que moi j'ai vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça super à animer. Voilà, c'est fini, on a fait peut-être un peu trop long, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Nous, alors, comme j'ai dit, pas d'émission la semaine prochaine, vous comprenez, deux émissions d'affilée, on est fatigué, on sera en vacances et on se revient donc dans deux semaines sur Libération, sur No Life et sur les internets. Merci à vous tous les deux.
Merci.
Et ciao.